Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, les deux choses les plus importantes que nous ayons à faire dans notre vie sont, d'une part, de nous tourner vers Dieu dans la repentance et dans la foi, par une conversion sincère qui nous fait recevoir Christ comme notre Sauveur et Seigneur, et d'autre part, engager toute la suite de notre existence à son service, surtout pour accomplir la grande mission qui consiste à témoigner de Christ et à annoncer son évangile à toute créature. Si nous ne perdons jamais de vue cet objectif, nous aurons toutes les garanties d'être accompagnés et soutenus par le Seigneur de manière suivie, et nous ferons ainsi l'expérience de sa fidélité indéfectible. C'est là le message qui ressort de notre témoignage d'avant la prédication de ce soir, qui nous rappellera, elle, ce qu'il faut proclamer, et l'appel de Dieu au salut pour tout homme, et donc pour chacun de nous. Voici le témoignage de Mme Larquer, donné en 1976, alors qu'elle était missionnaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ça relate sa conversion, son appel au service missionnaire, les combats qu'elle a connus, difficiles pour certains, et les victoires que le Seigneur a accordées dans la persévérance et dans la foi. Voici son témoignage. Dès ma première jeunesse, je cherchais, ça et là, en ce monde, à satisfaire mon âme assoiffée de justice et de vérité. Essayant de trouver le bonheur, poursuivant un idéal sans jamais l'atteindre. J'ai cherché à combler ma vie par les études, par les arts, puis les sports, croyant trouver là un élément sain et valable, mais je n'ai trouvé que vanité et orgueil. Cette vie sans but m'effrayait à la pensée du néant après la mort. Pourtant, Dieu avait déjà, par sa grâce, mis en moi la pensée de l'éternité. Toutes les œuvres de la nature me révélaient qu'il en était le Créateur. Mais pour moi, il était le Dieu lointain, comme me l'avait appris ma religion. J'ai connu la vanité des joies humaines, et j'en ai connu l'amertume, la déception et le désespoir. C'est en 1945, à l'âge de 24 ans, le cœur chargé de fardeau et lassé, que Dieu mit sur mon chemin une personne qui me parla de Jésus-Christ. Elle m'amena dans un lieu de culte où des chrétiens se réunissaient pour prier et lire les Saintes Écritures. Le cadre était bien modeste, mais Dieu était présent par son esprit. Il ouvrit mon cœur à sa grâce, déchira le voile qui était devant mes yeux, et je crus à la parole simple de l'Évangile. La foi qui émanait du cœur de ces quelques chrétiens me bouleversa, et Dieu me révéla Jésus-Christ, le Sauveur de mon âme, jour béni, car sans hésiter, je lui donnai mon cœur et ma vie, et crus à son pardon. Devant moi s'ouvrait une vie nouvelle. Le poids de mon péché ne m'écrasait plus, mes fardeaux étaient enlevés. Je compris que j'étais devenu une nouvelle créature, et que par son sang, Jésus me délivrait de l'esclavage du monde et de la servitude du péché. Je savourais le véritable bonheur du pardon en Jésus-Christ. Et je sus qu'en Dieu seul se trouvait la véritable vie, la lumière de toutes choses et la vie éternelle. Dès ce jour, mon désir fut de me soumettre à l'obéissance du baptême. Et le 2 juillet 1947 fut ce jour merveilleux pour moi. Le soir même, je reçus le baptême du Saint-Esprit. En même temps que moi, mon mari se convertit. Il fut saisi par la puissance de Dieu qui changea toute sa vie. À plusieurs reprises, j'expérimentais la guérison divine. Tout d'abord, je fus délivré d'un kyste interne, d'une bronchite chronique et d'une dépression physique. En août 1951, je fus à nouveau guéri. À la suite d'une infection provoquée par la sinusite, mes membres se paralysèrent dans une souffrance terrible. Mais le Seigneur, qui est fidèle, intervint et je fus délivré. Au fur et à mesure que je marchais avec mon Seigneur, le désir le plus ardent de lui consacrer toute ma vie pour le servir brûlait en moi. Dès mon enfance, je savais qu'un jour je servirais Dieu et qu'il me demanderait de quitter mon pays et les miens pour aller en Afrique. Mais je ne savais ni comment, ni quand, ni pourquoi. Maintenant que j'étais son enfant, je comprenais que c'était en terre de mission qu'il m'enverrait. Dieu avait mis sur mon cœur le fardeau de ses âmes, et plus particulièrement le fardeau de la jeunesse. Dieu, qui fait tout à merveille, appela mon mari à son service, et après des années de formation, il rentra dans le ministère. Pendant ce temps de préparation, le feu du service pour la mission brûla en lui également, et nous mîmes ensemble notre vie sur l'autel pour lui obéir et aller en mission en Afrique, lorsqu'il nous ouvrirait la porte. En 1956, nous partîmes pour la mission de Ouagadougou, en Haute-Volta, chez le pasteur et Madame Pierre Dupré. Là, je fus éprouvé dans mon corps. Atteint d'un abcès pernicieux, je fus près de la mort. Mais je savais que le Seigneur se glorifierait encore et Dieu me guérit. En 1958, Dieu nous ouvrit une porte pour aller en Côte d'Ivoire. Mon mari commença l'évangélisation de la ville d'Abidjan par des plein air. Il visita régulièrement les prisons et les hôpitaux. Le Seigneur travailla. Des âmes furent sauvées. Une église s'établit. Des villages s'ouvrirent à l'évangile. Je commençai aussi un travail spirituel et social au milieu des femmes et des enfants. Le fardeau de la jeunesse ne cessait de peser sur mon cœur. Et je luttais dans la prière afin que l'Esprit de Dieu amène des jeunes à lui et en fasse lever pour son service. L'Esprit de Dieu agit. Des jeunes en grand nombre se tournent vers Jésus-Christ. Combien son amour est grand! Ces expériences glorieuses dans le travail au milieu des jeunes sont pour nous un enrichissement. Surtout ces temps passés où l'Esprit a travaillé puissamment parmi de jeunes Européens anciens drogués. Ils ont été transformés et délivrés et sont devenus de nouvelles créatures. Ils étaient venus découragés, asservis à toutes sortes de passions, et Christ les a affranchis et les a rendus libres. Certains sont retournés en France, heureux d'avoir rencontré Jésus-Christ, qui a donné un autre sens à leur vie. Pendant ces longues années de mission, nous avons mené de rudes et durs combats, et comme Paul le pouvons dire, lutte aux dehors, crainte aux dedans. C'est une référence à 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 5. Je fus malade à nouveau, mais je ne me décourageais pas. Je savais que le Seigneur qui m'avait appelé est fidèle et qu'il m'accorderait encore son secours pour poursuivre son travail. Mais cette fois, Dieu me fit passer par un chemin différent. Je dus subir une opération de la vésicule biliaire. C'était son plan pour moi. Je réalisais alors que pour comprendre la souffrance des autres, il fallait la connaître soi-même. Et parfois la souffrance est un langage dont Dieu se sert pour nous parler, nous instruire et nous faire mieux comprendre son amour au milieu de l'épreuve. Après cette opération, j'étais fragile et ne pouvais m'alimenter normalement. Je souffrais parfois de fortes migraines suivies de vomissements. Mais j'espérais en la fidélité de mon Dieu pour me guérir complètement. Il l'avait déjà fait tant de fois. Une nuit, ayant été visité par Dieu, je reçus un attouchement divin. Les migraines et les vomissements dont je souffrais cessèrent. Quelques mois plus tard, pendant la visitation de l'Esprit à Abidjan, un soir, durant une réunion où Dieu se manifestait, en priant pour les malades, je sentis la puissance de Dieu qui visitait également mon corps. Je constatai que le Seigneur m'avait entièrement guéri. Ensuite, j'en eus la preuve en mangeant des aliments qui m'étaient défendus depuis au moins 28 ans. Après ces années de lutte provoquées aussi par le dur climat de l'Afrique, je sentais revivre en moi une énergie nouvelle. Depuis, je m'efforce de mettre continuellement ma vie à sa disposition pour lui plaire, lui être agréable et travailler avec plus de zèle au salut des âmes et à l'avancement de son règne. Je loue Dieu pour le chemin parcouru dans la tristesse comme dans la joie, car sa fidélité a été une armure invincible au cours de ces années de marche avec lui. Je me réjouis continuellement en mon Sauveur Jésus-Christ. Je désire que ce témoignage serve à la gloire seule du Seigneur et qu'il soit un moyen d'encouragement pour ceux qui sont découragés et fatigués sur le chemin, afin qu'ils reprennent courage et qu'ils expérimentent la fidélité et la puissance de notre Dieu. Amen. Voici pour ce beau témoignage d'encouragement et d'affermissement dans les voies de Dieu. Et nous voulons prier maintenant avant d'ouvrir la parole du Seigneur. Te remercions notre Dieu pour ces moments que tu nous accordes encore. Nous te remercions pour le témoignage de ce que tu accomplis avec fidélité pour ceux qui se tournent vers toi, pour ceux qui se consacrent à toi, pour ceux qui te suivent, pour ceux qui te servent. Et merci Seigneur parce que tu veux encore bénir l'annonce de ta parole, de ton évangile. Et nous croyons que tu vas encore faire par ce moyen une œuvre de salut et de vie éternelle. Sois glorifié notre Dieu. Amen. Amen. Bien, mes amis, je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 1er et au verset 1er, et nous lirons les 18 premiers versets. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Nous relisons ce dernier verset. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Vous savez, mes amis, les plus grands des pécheurs sont, d'après ce texte, les objets de la plus grande des grâces. Christ est un grand sauveur pour effacer les grandes transgressions de grands rebelles. Les grandes œuvres du salut n'ont jamais été entreprises pour des motifs bas ou petits. Il doit y avoir un grand but pour un si grand plan, mené à son achèvement à un si grand prix, garanti par de si grandes promesses et ayant pour objectif de rendre une si grande gloire à Dieu. Et même pour que toute l'affaire soit grande, il faut un grand pécheur, sur lequel la grande sagesse, la grande grâce et la grande puissance de Dieu puissent s'appliquer, afin de le transformer en un grand saint. Certainement, aucun homme, aussi pieux soit-il, ne peut se faire une idée de la bonté de Dieu. Nous la mesurons à notre propre mesure. Ah, si nous pouvions comprendre le sens de ce texte où Dieu dit « Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu, non pas un homme, je suis le Saint au milieu de toi. » C'est dans Osée 11, verset 9. Le Seigneur agit dans toutes choses, non pas comme un roi envers ses sujets, ni comme un prince envers ceux qui sont dans le besoin, mais comme Dieu seul sait le faire. Et de la même façon qu'il surpasse en gloire tout ce que les yeux humains peuvent contempler, de même il excelle en amour et en grâce, de sorte que les hommes ne peuvent comprendre l'infini de ses merveilles. Ah, notre texte s'introduit de lui-même. C'est un grand texte qui nous parle merveilleusement de la grâce de Dieu. et vous pouvez remarquer quatre choses qui seront les quatre points de notre message. En premier, ce texte s'adresse à des pêcheurs de la pire espèce. En deuxième, il contient une invitation de la plus grande force. En troisième, il promet le pardon d'une façon puissamment évidente. Et en quatrième, il nous présente un moment d'une signification très solennelle. Donc, notre premier chapitre nous rappelle que ce texte est adressé à des pécheurs de la pire espèce. Ah, la grandeur du péché dans lequel étaient plongés ceux auxquels le prophète s'adressait. Ils ne ressentaient pas leurs besoins du Sauveur. Ils avaient été frappés et fouettés jusqu'à n'être plus eux-mêmes qu'une masse de plaies vives, et pourtant ils ne s'étaient pas soumis sous la main de celui qui les châtiait si justement. Vous trouverez difficilement ailleurs dans la Bible ou autre part une description plus complète d'âmes insensibles, sans valeur, impies, abandonnées et endurcies. Nous avons dans le contexte une description tellement réaliste de la nature humaine dans son état de perdition et d'éloignement de Dieu. Il n'y a pas un seul rayon de lumière au milieu de ces ténèbres épaisses. L'homme est mauvais, 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 du commencement jusqu'à la fin. Il n'y a pas une lueur d'espoir dans sa nature. Rien de bon dans cette description de ces personnes auxquelles ce passage est adressé. Considérez, d'après le début du verset 2, que notre texte s'adresse d'abord à des pécheurs inconscients. Quand il est écrit « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. » Donc, si inconscients que Dieu lui-même ne s'adresse pas à eux pour les exhorter, mais qu'il fait appel aux cieux et à la terre pour écouter ses complaintes. Il parle au firmament, aux étoiles, au soleil, à la lune, pour leur demander de l'écouter. Car les hommes étaient devenus tellement sourds aux avertissements de Dieu, tellement morts à ses appels, qu'ils refusent de s'adresser à eux pour leur parler. Cieux, écoutez ! Terre, prête l'oreille. Voilà des objets qui n'ont pas la vie en eux-mêmes. Mais Dieu montre par là qu'il considère que l'homme est devenu plus insensible que les pierres des champs. Et pourtant, l'invitation résonne. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Ensuite, notre texte s'adresse aussi, comme nous le voyons, à des pécheurs ingrats. Parce que dans la suite de ce verset 2, il est marqué « J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Ah, combien il y en a, hélas, qui correspondent à cette description. Dieu a pourvu à leurs besoins. Ils ne sont pas nés dans l'esclavage ou dans une baraque misérable. Mais ces bons soins miséricordieux ont été visibles en toute leur jeunesse. Et pourtant, ils ont péché dans leur enfance. Et ils ont violé toutes les recommandations d'amour de Dieu, en dépit du sang de Christ versé pour eux et de l'Esprit de Dieu agissant et parlant. Ils ont oublié ses bontés, ils ont regimbé contre les aiguillons, ils ont transformé les bénédictions qu'il leur donnait en complices de leurs péchés, et les grâces répandues en excuses pour leurs iniquités. Oui, beaucoup d'entre nous, chacun d'entre nous, nous devions confesser que nous avons été ingrats envers un Dieu bon, patient et infiniment généreux. Et pourtant, le texte est là, s'adressant à chacun. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. » Notre texte aussi est adressé à des hommes qui sont pires que des bêtes. Il est dit au verset 3, « Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître, Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. » Nous calomnions souvent la création animale. Nous lisons d'un homme qu'il est ivre comme une bête. Je n'ai jamais vu d'animaux qui soient ivres. Parfois, quand un homme pratique un vice particulièrement dégradant, honteux et bas, on dit qu'il a commis un péché très bestial. Mais ce mot est-il approprié? Est-ce que les animaux pêchent? Ne plient-ils pas la nuque? Ne portent-ils pas le joug de l'homme, qui est un dieu pour eux? Est-ce qu'ils discutent la loi qui a établi l'homme sur eux? Si nous étions seulement à moitié obéissants à Dieu que les bêtes le sont à l'homme, il y aurait bien peu de péché en nous. Mais les hommes doivent savoir, dans leur conscience, qu'ils ont été pires que des bêtes. Ils n'ont pas servi Dieu comme un bœuf sert son maître. Ils n'ont même pas reconnu, autant que l'âne stupide reconnaît la crèche de son maître. Aucun d'entre nous ne garderait 20 ans un cheval, si non seulement il ne faisait jamais rien, mais qu'en plus, il cherche toujours à nous faire du mal. Et pourtant, il y a des hommes que Dieu a gardés pendant 20, 40, 60 ans ou plus, auxquels il a mis le souffle dans les narines, le pain dans leur bouche, les a mis sur leur dos. Et ils n'ont rien fait d'autre que de le maudire, parler mal de son service et de ses serviteurs et mépriser ses lois. Certainement, c'est un Dieu patient quand il dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel ». On peut s'étonner de ce qu'il est un texte semblable dans la Bible. Mais l'étonnement devient plus grand quand vous voyez à qui il est adressé, c'est-à-dire à des hommes qui sont descendus plus bas que les bêtes. Ah, mes amis, vous qui craignez Dieu, ne croyez jamais qu'il y ait des hommes trop mauvais pour être sauvés. Allez vers les rejetés, les buveurs, les abandonnés, les parias. Si Dieu invite des hommes qui sont plus mauvais que le bœuf ou que l'âne, vous pouvez les inviter aussi, avec l'espoir que cette invitation sera acceptée et qu'ils pourront être sauvés. Combien il y en a eu qui sont montés du fumier du péché jusqu'au trône de Dieu? Et combien peu d'autre part il y en a qui sont sortis de la chair des pharisiens pour s'élever vers la gloire céleste? De plus, il apparaît, d'après le début du verset 4, que notre texte s'adresse à des gens chargés de péché, d'iniquité. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Quand un homme est chargé au point de s'affaisser, il ne peut absolument plus avancer. Ces hommes étaient tellement chargés d'un tel poids d'iniquité qu'ils ne pouvaient plus bouger. Leur péché était devenu une part de leur propre nature. Comme une peinture prise dans la masse, ils ne pouvaient plus sortir. S'ils cherchaient à venir à Christ, leur péché était comme une chaîne à leurs pieds qui les retenait inexorablement en arrière. S'ils avaient quelques pensées de bien faire, les vieilles habitudes de vice tiraient ces enfants à leur naissance même. Ils pouvaient dire « Comment pourrais-je être meilleur? Comment pourrais-je être différent? Le péché est devenu une lourde cuirasse pour moi. Je ne peux pas bouger sous son poids. Je ne peux pas y échapper. » Et pourtant, même à cela, le Seigneur dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. » Oui, c'est une chose terrible, quand le péché n'est pas seulement dans notre nature, mais quand il devient une seconde nature. Quand l'usage du péché se transforme en habitude du péché, et que l'homme se retrouve prisonnier dans les mailles de ce filet d'acier dont il ne peut pas s'échapper. Et cependant, pour lui, même pour lui, esclave de beaucoup de vices, enchaîné pieds et mains, la parole de Dieu est envoyée « Venez et plaidons, dit l'Éternel ». De plus, c'est notre cinquième point dans ce chapitre, non seulement ils se chargeaient de péché eux-mêmes, mais ils étaient des exemples de désobéissance. Lorsque nous lisons la fin de ce verset 4, « La race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. » Un ancien commentateur disait « Ils se sont corrompus les uns les autres par leur compagnie et leur exemple, comme des pommes gâtées pourrissent celles qui sont à côté d'elles. » Vous savez, il existe ces hommes qui, partout où ils vont, transportent la maladie et la mort avec eux. On peut noter que dans presque tous les villages, dans presque tous les rassemblements de société, il y a un homme qui semble être comme le démon incarné de l'endroit. Un homme qui apprend aux jeunes à boire, à jurer, à faire toutes sortes de mots, à se droguer. Un homme que le diable semble avoir établi comme berger de son sombre troupeau. Une sorte de pasteur avec une houlette dans sa main, afin de les conduire dans des pâturages dangereux et de les faire reposer près des eaux empoisonnées. Mais même pour celui-là, même s'il est devenu un maître dans l'université du diable, même s'il est devenu un Goliath parmi les Philistins, même s'il est un chef parmi les pécheurs, même à lui, cette parole est envoyée aujourd'hui. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Est-il possible d'aller plus loin que cela? On penserait que non. Et pourtant, si nous continuons à lire les versets 5 et 6, nous voyons que c'est malheureusement possible. Je les lis, ces versets. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade, tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Eh oui. Et notre texte donc s'adresse, et notre sixième point, à des gens sur lesquels l'affliction a perdu absolument toute son influence. C'est une grande aggravation de notre péché quand nous péchons après avoir été châtiés. Si un enfant désobéit encore à ses parents après qu'il ait été châtié, c'est une désobéissance aggravée. Mais certains ont été châtiés, et combien peu ils en ont tiré profit pour eux-mêmes. Ah, qu'ils se souviennent de ces moments où ils étaient dans une situation précaire et qu'ils ont dit « Seigneur, secours-moi, relève-moi et je serai un homme différent ». Et ils ont été un homme différent, oui, car ils ont été pires que ceux qu'ils étaient auparavant, beaucoup plus endurcis. Ah, il en est parmi nos auditeurs qui ont été tirés de justesse d'entre les dents du grand dragon rouge. Ils ont eu des accidents, des incidents fâcheux les uns après les autres. Ils en ont peut-être encore de cuisantes traces dans leur chair et dans leur mémoire. Ah, mes amis, prenez garde. La justice de Dieu est comme la hache des Romains. Elle est liée dans un faisceau de joncs sur l'épaule du licteur. Quand les joncs pour châtier sont usés, c'est au tour de la hache d'être utilisée. Prenez garde que si les joncs ne vous amènent pas à la repentance, la hache, elle, vous amènera à la perdition et à la damnation. Mais pour vous, même pour vous, bien que des années de misère aient été perdues, pour vous, en ce jour, le message de l'Évangile est envoyé. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Et voici notre deuxième chapitre maintenant, c'est que ce texte apporte une invitation de la plus grande force. Ah, s'il en est qui aujourd'hui se rendent compte combien ils sont de grands pécheurs, qu'ils se laissent donc convaincre par Dieu qu'il veut les pardonner et les purifier. Car il en est beaucoup qui alors tombent dans l'autre extrême. Ils pensent qu'ils sont de trop grands pécheurs pour être sauvés. Mais dites-moi, quel passage de la Bible vous empêche de croire au pardon si vous tournez vers Christ ? Prenez une Bible, ouvrez-la, cherchez dans ses pages. Si vous trouvez un seul passage où il soit écrit « Tel ou tel homme ne peut pas frapper à la porte de la grâce et ne peut pas chercher le Sauveur. » Vous savez, il y a beaucoup de versets dont le sens est « Que celui qui le veut vienne ». C'est un livre qui vous invite toujours à vous approcher. Je ne peux y trouver aucun passage qui soit une porte fermée, mais des centaines qui vous invitent à entrer. De plus, le Seigneur vous a-t-il jamais refusé ? Vous êtes-vous approché de Christ en recherchant sa grâce et vous a-t-il dit que vous étiez trop pécheur et que vous deviez vous en aller ? Alors, voulez-vous limiter le Tout-Puissant avant même de l'avoir éprouvé, avant même d'avoir essayé de venir à lui ? Avez-vous seulement prié de tout votre cœur ? Ah, il n'a pas promis de vous répondre d'une façon sensible la première fois. Dieu entend toujours la prière du pécheur, mais il ne lui fait pas toujours savoir qu'il l'a entendue. La grâce vient rapidement, mais la conscience de cette grâce peut être retardée. Mais il n'y a jamais eu un pécheur qui ait cherché Christ et qui ait été refusé. Mais si ces pensées ne suffisaient pas et que vous êtes persuadé encore que vous ne pouvez être pardonné, souvenez-vous de plusieurs choses. Déjà, comment se fait-il que notre Seigneur, quand il vint dans le monde, choisit de naître de femme pécheresse ? Il est remarquable de constater que plusieurs de ces femmes qui sont dans la généalogie de Christ sont de la pire espèce. Il y a Tamar, qui a commis l'inceste avec son beau-père. Il y a Rahab, la prostituée. Il y a Bathsheba, l'adultère. Et pourtant, Christ est né dans leurs descendants. Pourquoi cela ? Ô pécheur, c'est pour te montrer qu'il est venu sauver les pécheurs. Mais considérez ce que Jésus a fait quand il était sur la terre. Où a-t-il été emmené comme enfant ? En Égypte, où ils adoraient des animaux, des plantes, afin que ce qui était écrit s'accomplisse. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Où a-t-il commencé à prêcher ? Au bord de la mer de Galilée, afin que les peuples assis dans les ténèbres voient une grande lumière. Quelle était sa société habituelle ? Il a été une fois dans la maison d'un pharisien. Mais combien souvent il était l'ami des publicains et des pécheurs ? Et ceux qui le suivaient, quelle étrange équipe il formait ! Il y avait ces rudes pêcheurs du lac de Galilée, frustes et incultes pour plusieurs, qui les considéraient comme des hommes de rien. Il y avait Pierre, qui le reniera. Il y avait Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Quel est l'homme qu'il convertit après être allé au ciel ? c'est le sanguinaire Saul de Tarse, qui était dangereusement fou contre le peuple de Dieu, au point de les détruire par tous les moyens. Qu'a fait Jésus en mourant ? Il a sauvé un brigand, un vulgaire brigand, et il lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et vous connaissez son enseignement. Un enseignement s'adressant aux pires des hommes. Souvenez-vous de la parabole du festin. Allez dans les chemins et long des haies, et tant d'autres du même genre. Ah, il est venu dans le but de mettre la lumière dans les ténèbres, de donner le bonheur aux misérables, de donner la guérison aux malades, de donner l'espérance aux désespérés, de donner la vie aux morts, de donner le salut aux perdus, de donner le pardon aux coupables. Et combien il faut donc que vous puissiez venir à lui et aujourd'hui. Ah, si vous êtes un grand pécheur, sachez que le Seigneur veut faire une grande œuvre en vous pour se glorifier. Comment un médecin aura-t-il un nom célèbre ? Pas en soignant des verrues ou en pansant de simples petites écorchures, mais en s'occupant de cas désespérés, de malades que personne n'a pu guérir, d'opérations difficiles et périlleuses à réaliser. S'il réussit, son nom sera bientôt en tête des journaux. De même, quand un ingénieur construit une voie de chemin de fer sur un bon terrain solide, n'importe qui presque peut y arriver, direz-vous. Mais quand Stevenson construisit une voie de chemin de fer dans une région marécageuse qui absorbait au fur et à mesure tous les matériaux qu'on y mettait, tout le monde en fut émerveillé. Et combien il faut donc que vous veniez à Christ avec confiance, de tout votre cœur, que vous vous rendiez à cette invitation pressante. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. » Et puis en troisième, notre troisième point, c'est que ce texte nous promet le pardon d'une façon évidente et puissante. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ces couleurs sont citées à cause de leur brillance, de leur apparence. Le cramoisi et le pourpre sont des couleurs qui attirent immédiatement le regard. Il y a certaines couleurs qu'un homme peut porter et passer inaperçu. Mais si un homme est vêtu de cramoisi, on peut le voir de très loin. Maintenant, certains péchés sont frappants, évidents. Vous ne pouvez pas vous empêcher de les voir. Et le pécheur lui-même est obligé de les confesser. Mais le mot hébreu contient aussi l'idée d'une profonde imprégnation. Ce que nous appelons une couleur teintée dans la masse. Quand la laine a été trempée si longtemps dans la teinture qu'elle ne peut plus être extraite, que vous la laviez et la portiez aussi longtemps que vous voudrez, beaucoup de péchés sont de cette sorte-là. De même que l'Éthiopien ne peut se rendre blanc, ni le léopard sans tache, de même nous pouvons faire le bien par nos propres forces. Mais voici la promesse du pardon. Ils deviendront blancs comme la neige pure et vierge. Mais la neige perd sa blancheur. Et c'est pourquoi c'est comparé à la laine, lavée, préparée par la bonne ménagère, pour en faire ses plus beaux habits. Plus aucune tache, aucun signe, aucune trace de péché. Le vêtement de salut que nous recevons alors est meilleur même que si nous n'avions jamais péché. Car ce serait seulement la justice de l'homme, tandis que c'est maintenant la justice de Dieu, infiniment meilleure et plus parfaite. Oh, combien le sang de Christ est capable de vous purifier et de vous sauver parfaitement si vous venez à lui aujourd'hui. Enfin, en conclusion, le moment dont il est parlé dans ce passage est très important. Et ce moment, c'est maintenant. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Considérons 12 raisons de venir à lui sans plus tarder. Venez maintenant! « Car vous avez péché assez longtemps, pourquoi endurcirez-vous vos cœurs en remettant à plus tard ?»« En deuxième, venez maintenant, aucun moment ne pourrait être meilleur. »« Si vous attendez que ça aille mieux, vous ne viendrez jamais. »« En troisième, venez maintenant, vous ne pouvez n'avoir aucun autre avertissement. »« Le cœur ne sera plus aussi sensible qu'aujourd'hui. »« Et puis en quatrième, venez maintenant, qui sait si un autre cœur agonisera encore pour vous dans la prière. Venez maintenant encore, car Dieu peut vous abandonner demain. Venez maintenant, sixième, car c'est le temps de Dieu. Demain, c'est le temps du diable. Les dits en Hébreu chapitre 3, versets 7 à 9. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Au jour de la tentation dans les airs, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres. Et oui, c'était notre septième. Et le huitième maintenant. Venez maintenant. Pourquoi remettre le pardon, la délivrance, la guérison, le bonheur à plus tard? Venez maintenant. Les bras du Père Céleste vous sont ouverts. Il vous voit venir de loin et il accourt vers vous. Venez maintenant. L'Assemblée prie pour votre bénédiction, votre salut, votre retour à lui. Venez maintenant, pauvre mortel, si près de ta fin. Ainsi parle le Seigneur pour certains. Mets ta maison en ordre, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Enfin, venez maintenant. Considère tes voies et deviens sage. Tourne-toi vers lui et sois sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est le meilleur moment, maintenant. Dieu m'est témoin que c'est réellement le cas. Viens donc à lui et sois sauvé dès aujourd'hui. Voilà, eh bien Seigneur, nous te remercions. C'est toi qui vois les cœurs et les dispositions de chacune et de chacun qui entendent cette parole. Et c'est toi qui adresses cet appel pressant au cœur, à l'âme, à la conscience de chacun et de chacune, en particulier de ceux qui jusqu'à présent ne t'ont pas encore reçu. Et merci Seigneur, parce que par ta parole, tu enlèves toutes les objections qu'il peut y avoir, tu enlèves tous les obstacles et tu manifestes ton désir de pardonner et de sauver puissamment. Et merci parce que pour ceux qui maintenant viennent à toi dans la prière, de tout leur cœur, bien tu accomplis cette œuvre. Tu leur donnes l'assurance du pardon. Tu leur donnes la joie de ton salut. Tu leur fais encore puissamment grâce et tu les soutiens par ton esprit pour qu'ils puissent ensuite te suivre et marcher dans tes bonnes voies. Sois glorifié notre Seigneur. Amen. Amen. Bien voilà mes amis, mes frères et sœurs. Nous avons encore nos annonces. Je vous rappelle que, Dieu voulant, nous continuerons l'évangélisation dans les villages samedi. Donc rendez-vous ici à 14h30. Ce sera la distribution en boîte aux lettres. Le culte doit avoir lieu dimanche à 8h30 et à 10h45. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous sans tarder sur le site de l'église ou par téléphone. Et je vous rappelle aussi la réunion de prière prévue mercredi à 16h pour le moment. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour cela. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, tout d'abord en vous sauvant, puis en vous fortifiant pour accomplir la mission de service et de témoignage qu'il met devant vous. Amen.